Mesdames et messieurs, le tribunal appelle l'affaire Briançon-Deluzière. Merci, vous pouvez vous asseoir.
Mon client n'allait pas tarder à découvrir que les deux vaches étaient atteintes de salmonelle.
Monsieur le Président, les accusations que l'on porte contre mon client sont tout simplement stupéfiantes.
Au nom de ma cliente, je réclamerai 50 000 francs de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
Si les vaches de mon client avaient eu la salmonellose, non seulement il les aurait soignées, mais jamais il n'aurait eu la malhonnêteté de les vendre.
Mon client vous l'a expliqué, monsieur le Président. Laetitia est une enfant fragile. Rendez-la à sa mère et vous en ferez une enfant désorientée et malheureuse.
Mon client n'a pas pu entendre ce qui se passait devant chez lui, car au moment de l'agression vers minuit un quart, il était dans son jardin, derrière son pavillon.
Monsieur le Président, non seulement mon client a perdu une vache et un veau, mais encore, il était obligé de jeter toute sa production de fromage. Ouais.
Vous êtes en train de traiter ma cliente de prostituée, vous ne trouvez pas ça insultant?
Je dis ce que je pense.
Oui, mais nous préférons des faits, monsieur Renaud. Ce que vous dites est de parti pris.
Ma cliente s'est fait agresser à quelques mètres d'un jeune homme vigoureux qui n'a absolument rien fait pour la défendre, malgré ses cris et ses appels au secours. Quels qu'en soient les motifs, cette lâcheté est inqualifiable. Sans son courage et son énergie, ma cliente aurait pu sérieusement être mise à mal. Les journaux sont pleins de faits divers écœurants où l'on voit des femmes se faire violer sous les yeux d'un public indifférent.
Ces fromages auraient dû rapporter près de 70 000 francs à mon client, monsieur
le Président. Une fortune que ça m'a coûté, cette affaire-là.
La tenue vestimentaire de ma cliente ne troublait en rien le travail de ses collègues. Moi-même, j'ai questionné les 18 employés que compte le garage de Tolbiac. Personne ne trouvait le comportement de ma cliente perturbant pour l'entreprise.
Monsieur le Président, mon client demande au tribunal d'ordonner la destruction de ce bâtiment qui enlève à sa propriété tout agrément et 50 000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi depuis sa construction.
Mesdames et messieurs, le tribunal appelle l'affaire Champagnat, ministère public et Vaudry. Merci, asseyez-vous.
Les faits qui vous sont reprochés ont été commis dans le cadre d'une enquête sur la disparition de Sabine Nollet, âgée de 17 ans. Vos déclarations ont abouti à l'arrestation de M. Gabriel Baudry. Or, la jeune fille a réapparu quelques semaines plus tard. Il s'agissait en effet d'une fugue.
J'appelle M. Briançon. Approchez, s'il vous plaît, monsieur. Vous appelez donc Bernard Briançon, vous avez 44 ans et vous êtes divorcé. Bien, dans la nuit du 12 juillet 1989, alors qu'elle rentrait à pied de la gare de Vitry, Madame Deluzière a été agressée juste devant votre domicile.
La parole est au demandeur, Monsieur Zampanelli. Veuillez vous avancer, je vous prie.
Monsieur, vous êtes le demandeur, quelle est votre requête?
J'appelle Monsieur Mousse.
Que venez-vous demander exactement à ce tribunal?
Monsieur Charles Mousse, vous êtes né à Honfleur le 11 octobre 1940 et vous êtes guérisseur. Veuillez venir là-bas, monsieur. Monsieur Mousse, je vois qu'avant d'être guérisseur, vous étiez agriculteur de formation.
Parce que j'en ai appris des vertes et des pommes, sur le compte à Landier. Oh, mais même vous les connaissez pas, les Landiers. Chez eux, un sou, c'est un sou. Rien ne se perd, tout se revend.
Monsieur Louvain, venez à la barre, je vous prie. Alors, vous vous appelez Benoît Louvain, vous avez 33 ans et vous êtes travailleur saisonnier. Et c'est exact. Monsieur Louvain, reprenons depuis le début. Comment avez-vous acquis cette tigresse?
Madame Denusière, voulez-vous venir à la barre, je vous prie? Madame Denusière, vous vous appelez donc Maïté Denusière, vous avez 43 ans, vous êtes sage-femme et vous habitez Alignan-du-Vent, près de Béziers. Bien, la nuit du 12 juillet, vous vous dirigiez vers le domicile de votre fille vers minuit. Madame Denusière, l'homme qui vous suivait vous a donc rattrapé devant le pavillon de M. Briançon.
Maître, s'il vous plaît. Je vous remercie, M. Pétrel. Vous pouvez aller vous asseoir dans la salle. Huissier, faites appeler le second témoin, je vous prie. Mademoiselle, votre dispute était-elle assez violente pour qu'on la prenne pour un enlèvement? Mademoiselle, vous vous appelez Éléonore Delisle, vous avez 25 ans, vous êtes styliste. N'est-ce pas?
Oui, je dessine des souliers. Je suis contente, monsieur Garonne, que ce soit vous qui...
Mademoiselle, la fréquence de vos visites à ce tribunal ne vous autorise pas ce temps familier, s'il vous plaît. Monsieur Marin affirme que vous l'avez volontairement blessé au front et à la joue dans un accès de colère. Néanmoins, il ne s'est pas constitué partie civile. Il assistera donc à ce procès comme plaignant. D'après vous, ces deux vaches auraient donc contracté la maladie chez M. Fouras. Mais comment expliquez-vous que l'une des deux vaches ait survécu et l'autre pas ?
Mais vous avez vu ou entendu autre chose. Et si je comprends bien, vous avez entendu cette musique dans la nuit du 12 juillet. Qu'est-ce que c'est ? Silence, s'il vous plaît. Monsieur, silence.
Monsieur, cette comédie a assez duré. Il serait grand temps que vous nous disiez enfin la vérité. Ce que je ne comprends pas, c'est que vous ayez monté de toutes pièces cette histoire d'enlèvement. Monsieur, si votre témoignage peut éclairer ce tribunal, je vous prie de vous avancer vers la barre. Monsieur Binet, lorsque vous avez signé des chèques de montants dont vous ne disposiez pas, vous saviez que vous preniez des risques.
C'est donc vous qui étiez là au moment où Madame de Nusière a été attaquée. Et votre frère n'était pas là.
Je vous remercie, madame. Vous pouvez aller vous asseoir dans la salle. Maître Castellet, vous avez la parole. Je vous remercie. Vous pouvez aller vous asseoir dans la salle. Monsieur Champagnat, voulez-vous revenir à la barre, je vous prie ? Vous êtes conscient que de lourds soupçons pèsent sur vous.
Et c'est à ce moment-là que vous êtes mis à crier au secours, à l'aide, etc., etc.
Non, j'ai pas crié, etc., etc.
Silence, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Poursuivez, madame. Madame de Nusière, qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que vos cris ont été entendus ?
Voulez-vous revenir à la barre, monsieur Champagnat ? Est-il exact que vous ayez cherché à vous venger du commissaire Pétrel ? Mais l'accident a eu lieu il y a 3 ans. Pourquoi avoir attendu si longtemps ? À quel moment vous êtes-vous réellement inquiété de la santé de vos vaches ? Et vous n'avez pas fait appel à un autre vétérinaire ?
650 fromages que j'ai jetés à la poubelle. Si c'est pas une misère, ça, hein ?
Jacques Stéphane, 31 ans, comptable dans une compagnie d'assurance. Je suis ici, monsieur le juge, pour qu'on me reconnaisse enfin comme le vrai fils de Yann Duperron. C'était mon père naturel. Je demande qu'on me laisse récupérer la maison et tous les biens qu'il a laissés en héritage.
Monsieur Baudry a porté plainte, mais a décidé de ne pas se porter partie civile, n'est-ce pas, monsieur le procureur ?
Malgré ses appels au secours, vous n'êtes pas intervenu. Vous êtes par conséquent cité devant ce tribunal pour non-assistance à personne en danger.
Monsieur Champagnat, je sais que vous avez déjà raconté cette histoire plusieurs fois, mais je vous prierai de changer de ton. Reconnaissez-vous les faits ? Je vous prierai de ne pas intervenir maintenant. Et encore moins d'interpeller la partie adverse. Et comment étiez-vous au courant de leur dispute ?
Des pleurs sur le corps ?
Oui.
Et quels étaient vos rapports avec cette jeune fille ?
Maître, je vous en prie.
Numéro ne m'amuse absolument pas, monsieur Champagnat, autant vous le dire tout de suite. La maladie se serait donc bien déclarée avant que monsieur Pourras n'achète ses vaches. Mais c'est bien la dénonciation de monsieur Champagnat qui a entraîné l'inculpation de monsieur Baudry. Comment se fait-il que l'une des deux vaches ait survécu et l'autre pas ?
Monsieur Briançon, reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés ?
Vous voulez dire que tout le reste de votre cheptel a été contaminé ?
Au cours de l'instruction, il a été formellement démontré qu'aux alentours de minuit, c'est-à-dire au moment où se sont déroulés les faits, vous étiez chez vous.
Monsieur Landier, veuillez venir à la barre, s'il vous plaît. Alors, vous vous appelez Landier, Jean-Alexandre, vous avez 42 ans et vous êtes agriculteur, c'est bien ça, n'est-ce pas ?
Madame de Nusière, vous parlerez quand je vous interrogerai, s'il vous plaît. J'aimerais que vous nous précisiez un peu ce point. À quelle heure étiez-vous dans votre jardin ? Et pour quelle raison ? Monsieur, gardez votre calme, je vous prie.
C'est bien vous qui avez donné le bébé tigre Lola à monsieur Louvain, n'est-ce pas ?
Huissier, faites venir le premier témoin, je vous prie.
Et pour quel motif avez-vous divorcé ?
Le tribunal ne se fie pas à son imagination, il préfère des faits concrets.
Bien, votre fille est toujours domiciliée chez vous ?
Oui.
Est-il arrivé à votre ex-femme d'emmener Laetitia avec elle pour des vacances ou quelques jours ?
Jamais.
Entendons-nous bien, monsieur le président, mon client ne conteste pas la construction, mais l'emplacement choisi.
Et votre fille n'a jamais souffert de l'absence de sa mère. Les rapports se sont détériorés au moment où madame Brunel a fait valoir son droit de garde. Alors comment peut-on à la fois écouter la radio, regarder la télévision, tout en dessinant un
escarpin brodé, monsieur le président.
S'il vous plaît, asseyez-vous, monsieur Quérol. Un peu de tenue, monsieur Poitras, je vous prie. Mais je n'appelle pas cela une vengeance. Votre maîtresse manque de vous éborgner. Il est légitime que vous cherchiez à vous protéger en faisant appel à la justice.
Madame Poulain, vous n'êtes pas là pour juger de la manière de vivre de monsieur et madame Quérol, n'est-ce pas ?
C'est Yann Duperron qui m'a élevée. Je suis bien placée pour savoir que je suis sa seule famille et qu'il ne vous a jamais vue.
Je vous demande le silence, mademoiselle, s'il vous plaît.
Excusez-moi, monsieur le président, mais je ne peux pas lui laisser dire n'importe quoi.
Contenez-vous quand même. Enfin, mademoiselle, vous admettez que mademoiselle Béatrice Guillemin avait des tenues de travail, disons, déconcertantes. Qu'a fait Yann Duperron après avoir aidé financièrement votre mère? Vous nous avez dit qu'il lui avait promis de divorcer?
Il avait promis, oui. Il ne l'a pas fait.
Attention, monsieur Montbaillard, ne dépassez pas les bornes. Si les locaux de monsieur Porras sont aussi insalubres que vous le dites, comment se fait-il que le reste du cheptel soit encore en vie? Je dois vous avouer que c'est la première fois que j'ai à juger une affaire pareille. Bien, je vous remercie, monsieur. Vous pouvez aller vous asseoir dans la salle. Huissier, faites appeler le second témoin, je vous prie. Je vous remercie, madame Perron. Vous pouvez aller vous asseoir dans la salle. Mais sachez qu'un témoin ne doit parler que de ce qu'il a vu, pas de ce qu'on lui a raconté. Quant à vous, madame Montbaillard, je n'exclus pas de vous poursuivre pour subornation de témoin. Avez-vous autre chose à ajouter? Par vos fonctions, vous êtes assermenté, je vous dispenserai donc de prêter serment. Oui, mais monsieur Pétrel, pour connaître les responsabilités de chacun, je suis obligé de vous demander dans quelles conditions s'est déroulée votre enquête. Pourquoi mademoiselle Delisle se serait-elle accusée d'un délit qu'elle n'aurait pas commis?
Le tribunal appelle monsieur Paul Pétrel, cité par le ministère public. Le tribunal appelle à présent Sabine Nollet, cité par le ministère public.
Du calme, mademoiselle, du calme. Nous sommes ici pour tenter d'éclaircir cette affaire. Reprenez-vous et terminez tranquillement votre déposition.
Monsieur le Président, je vous prie d'excuser mon client. Mais un témoignage porté en toute bonne foi le conduit en correctionnel, alors...
Bonjour, madame. Vous vous appelez Françoise Nicou, vous avez 40 ans. Et vous êtes vétérinaire, est-ce exact? Vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites, je le jure. Madame, pour quelle raison venez-vous témoigner en faveur de Monsieur Landier?
Monsieur le Président, il est scandaleux que le demandeur se permette d'insulter une femme qui a perdu il y a quelques mois sa fille et l'homme qu'elle aimait.
Effectivement, maître. Monsieur Demarquet, je vous prierai de rester courtois dans l'enceinte de ce tribunal.
Le tribunal appelle Monsieur Gantin. Cité par Monsieur Porras.
Le tribunal appelle l'affaire Zampanelli-Lebrizec.
Je proteste. Mon confrère terrorise le prévenu.
Monsieur le Président, le prévenu nous présente une version des faits habilement déformée.
Monsieur le Président, je proteste. Le décret de 1977 est incomplet. Il ne précise pas pour quels animaux non domestiqués il faudrait se pourvoir d'une autorisation. La liste devrait figurer dans un arrêté qui n'a jamais été pris. Il y a donc un vide juridique et mon client ne saurait être poursuivi pour un délit qui n'est pas défini.
Précisons, monsieur le Président, que mademoiselle Guillemin a été licenciée dans les règles de la procédure puisqu'elle a touché ses indemnités et ses congés payés et qu'elle a obtenu son préavis. Seulement voilà, mademoiselle Guillemin n'a pas que des prédispositions pour l'exhibitionnisme. Elle a aussi des prédispositions pour la cupidité. Puisqu'elle réclame aujourd'hui pas moins de 6 mois de salaire.
Attendez, vous avez une curieuse façon de présenter les choses, madame Brunel. Hein. Votre mari a toujours refusé que la garde de Laetitia vous soit confiée. Pour le rassurer, vous lui avez laissé entendre que vous ne vous conformeriez pas à la décision de justice. Il vous a fait confiance, il avait de bonnes raisons, car vous n'étiez pas une mère très envahissante. Et au bout de 2 ans, vous refaites surface et vous réclamez votre fille.
Mais votre cliente est une dépravée et une exhibitionniste. Ça, c'est quand même pas ma faute.
Calmez-vous, monsieur Remy.
Je n'aime pas qu'on m'attaque, monsieur le Président.
Si vous n'avez rien d'autre à ajouter, vous pouvez aller vous asseoir dans la salle.
Très bonne question, cher consoeur, et je vais vous répondre.
Monsieur le Président, il faut empêcher ces guérisseurs et autres rebouteux de prendre notre place dans l'esprit des gens. Des charlatans comme monsieur Mousse sont un frein à l'évolution et au progrès.
Monsieur le Président, l'exploitation de monsieur Landier est un modèle dans le genre. En tant que producteur de viande, il est tenu à des règles d'hygiène draconiennes. Monsieur le Président, dans cette affaire, seule l'incompétence de messieurs Gantin et Porras est en cause.
Monsieur le Président, voilà en quoi consiste la dénonciation calomnieuse de Roland Champagnat.
Oh, monsieur le procureur, tâchons de garder la tête froide. Je le répète, c'est une simple querelle d'amants et ses amants sont encore des enfants.
Nous allons passer à l'audition des témoins. Je vous remercie, monsieur, vous pouvez regagner votre place. Huissier, je vous en prie. Vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites, je le jure. Eh bien, je vous écoute, monsieur.
Monsieur Briançon, il est vraiment très difficile de vous croire. Vous nous dites d'abord que vous avez passé une partie de la nuit dans votre jardin, mais pour y faire quoi? On se le demande. C'est un mystère.
Lui nous ignorait, mais nous, on ne pouvait pas l'ignorer. Il entreposait son fumier quasiment sous la fenêtre de notre cuisine. C'était irrespirable. Sans parler des bouches d'aération de son écurie qui étaient dirigées vers nos fenêtres. Une vraie puanteur, monsieur le Président.
Je suis ici pour demander justice parce que
On m'a volé une partie de moi-même, une partie de mon âme.
J'étais encore gosse, 14-15 ans par là, quand la grosse Noiraude a eu la fièvre afteuse.
La grosse Noiraude était une vache, monsieur le président.
J'avais compris.
Pourquoi qu'ils ouvrent jamais leur volet? Et puis, ils soivent jamais, ils rigolent jamais. Ah non, ce sont des gens bizarres. Ils sont pas comme nous.
Pourquoi Benoît Louvain a-t-il quitté le ciel?
C'est lui qui a voulu partir. Je lui avais proposé de rester, mais pas comme dompteur, il a refusé.
Justement, pourquoi pas comme dompteur?
S'il ne vous l'a pas dit, je respecte son silence. C'est la loi pour les gens du cirque. Je ne saurais la transgresser.
C'est cette histoire d'odeur. Ah ben c'est du bidon, parce que moi j'ai jamais rien senti. Et puis, pour la vue sur la montagne, ben laissez-moi rigoler. Ils étaient toute la journée devant la télé, alors le paysage, ils s'en foutaient bien.
Considérez-vous Lola comme dangereuse?
Vos bêtes sont-elles vaccinées contre ces maladies infectieuses?
Ah, ben si on commence à vacciner contre tous les microbes, En tout cas, les bêtes à l'andier sont peut-être vaccinées, mais ça ne les empêche pas de crever, voilà.
Monsieur le Président, je vous assure que ces deux bêtes étaient en pleine forme.
Un jour, elle a dit une chose qui m'a frappé, elle a dit... Laetitia, c'est désespérant, je ne sais pas m'en servir.
J'ai quitté mon boulot au garage parce que c'était plus possible, à cause de Madame Gondard. Toujours en train de faire des remarques, jamais contente. Même avec moi, ça se passait mal. Et le port de la blouse avec le signe du garage, ça m'est resté là. Et puis, il y a eu le licenciement de Béatrice, ça a été la goutte d'eau, je suis partie.
Et quand avez-vous décidé de l'épouser?
Il y a un mois.
Quelle a été la réaction de votre mère à ce projet?
Elle était contre, bien sûr.
Monsieur Magui, dans ses griefs, Madame Villa parle de débauchage. Qu'avez-vous à répondre?
Le jeu, comme l'alcool, peut détruire la vie d'un homme.
Ça n'a rien à voir. Un jeu a ses règles. Une dette de jeu est une dette d'honneur.
Peut-être, mais ce n'est pas une dette de droit. Vous le savez bien. La loi ne reconnaît pas les dettes de jeu. L'article 1965 du Code civil est très clair là-dessus. Je cite. La loi n'accorde aucune action pour les dettes de jeu. Vous le savez très bien, mon cher confrère.
Elle ne vous a jamais dit qu'elle s'opposerait judiciairement à votre mariage?
Non, jamais. Deux jours avant le mariage, elle nous a même invités à dîner.
Mais si vous saviez que vous auriez des difficultés à rembourser ces chèques, pourquoi ne pas s'être arrêté tout de suite?
C'est là qu'est le vice, monsieur le juge. Quand on joue, on ne pense jamais à s'arrêter, c'est... C'est comme une machine qu'ils font constamment alimenter. Et surtout quand on perd, parce que là, il faut se refaire. D'ailleurs, ce soir-là, j'ai joué 11 fois de suite sur le 9. J'étais sûr qu'il finirait par sortir. D'autant qu'on était samedi, et que le samedi, c'est un bon jour pour le 9.
Bon, vous savez qu'Antoine et moi partageons un studio. Lui travaille la journée comme vendeur, et moi, je suis styliste de chaussures. Je dessine des souliers.
Oui, eh bien...
Bon, et bien, un soir, Antoine rentre de fort méchante humeur. Alors, ni bonjour, ni sourire, pas un petit geste de tendresse. Je ne dis rien, j'ai l'habitude. Je continue à dessiner mon escarpin brodé.
La preuve que cette femme cherche à nous nuire, c'est que nous avons appris son opposition au mariage une heure avant la cérémonie. Elle aura réussi à gâcher la journée d'une centaine d'invités.
Les frais de cette réception avortée s'élèvent à 22 000 francs. J'ai ici toutes les factures.
Dans sa plainte enregistrée au commissariat, Antoine Marin affirme que vous l'avez blessé volontairement d'un coup de plume qui aurait pu l'éborgner pour de bon. Est-ce vrai?
Mais c'est archi faux! Je vous rappelle que j'étais assez bête pour l'aimer.
L'amour n'a jamais empêché personne de défigurer son prochain.
Monsieur Quérol et sa femme n'ont plus le goût de séjourner dans cette maison qu'ils chérissaient et dont les fenêtres s'ouvrent à présent sur un mur de parpaing. Mais surtout, ils subissent un préjudice financier considérable. La propriété de mon client a perdu 25% de sa valeur. Je joins au dossier les constats d'experts qui établissent cette dévaluation.
Estimez-vous qu'Antoine Montbaillard souffre de troubles mentaux?
Oui, ça, il n'a plus toute sa tête.
Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer cela?
Bien, il y a un mois, il est passé un soir à la Grangière pour voir sa mère. Il était tout nu.
Quel est votre lien exact avec Monsieur Duperron?
C'était le frère de mon père, mais pour moi c'était comme mon père.
Vous pouvez vous expliquer plus amplement.
Mes parents sont morts dans un accident de voiture quand j'avais 5 ans. Oncle Yann était la seule famille qui me restait. Il a décidé de me prendre en charge. Il m'a installée avec lui dans sa maison et s'est occupé de moi comme un père. Il regrettait de ne pas avoir eu d'enfant. Et j'y étais comme sa vraie fille. Je l'adorais.
Et pour finir, il a passé la nuit dans un arbre. Oui, le gros marronnier qui est juste en face de la cuisine.
Eh bien, Yann Duperron était présent à la clinique le jour de l'accouchement pour voir son fils.
Vous voulez dire pour voir Stéphane Jacquet?
Ben oui, et puis bien d'autres jours encore.
Mademoiselle, vous reconnaissez donc avoir blessé délibérément Monsieur Antoine Marin d'un coup de plume d'acier par simple jalousie?
Monsieur le procureur, la jalousie n'est jamais simple.
Il ne faut pas qu'il se marie.
Qu'y a-t-il, Madame Montbaillard?
Muriel et sa sœur.
Des microbes? Venez donc visiter mes étables. Elles sont tellement propres qu'on pourrait manger par terre.
Votre détermination pour empêcher ce mariage a quelque chose de touchant.
C'est que je lui en voulais d'avoir porté plainte contre moi la dernière fois, quand je lui ai démoli son seul ex.
Une sage-femme, ça a l'œil, justement. Alors, premièrement, il était le seul homme à être venu voir Mademoiselle Jacquet à la clinique. Et deuxièmement, il n'y a qu'un père pour se mettre dans des états pareils.
Je renonce à ce mariage. Je renonce.
Monsieur, vous vous moquez de moi, vous avez déclaré exactement le contraire à l'instruction.
On a mal compris.
Mais enfin, mademoiselle Delille a affirmé elle-même que c'était volontairement qu'elle vous avait blessé avec sa plume d'acier.
Oui, mais
je crois que ça ne veut rien dire parce qu'elle est un petit peu fragile mentalement.
Permettez que je récapitule. Une aide financière qui dure plusieurs mois, le don d'un appartement, la prise en charge de l'accouchement et l'achat de tout un nécessaire de nurserie. Ça finit par en faire beaucoup pour un simple ami.
Et vous saviez ce qu'elle disait?
Non, mais je suis sûr que vous allez me le dire.
Elle répétait, je vais te tuer, je vais te tuer. Et des mots si grossiers que je ne m'en souviens plus.
Un tiers de ma clientèle est partie, monsieur le président. Un tiers, à cause de ce voyou amoral.
Yann n'a pas pu faire ce gosse.
Et pourquoi?
Parce qu'il ne pouvait pas. Oui. Il ne pouvait pas avoir d'enfant.
Eh ben c'est du bois, monsieur le président, ils étaient usés jusqu'au trognon. Ils étaient plus bons à rien.
Il y a eu des analyses. Ils ont dit que c'était Yann qui souffrait d'une anomalie, d'une oligospermie.
Ensiler le maïs, en quoi cela consiste-t-il?
Monsieur Dieppe, pourquoi avez-vous quitté l'agence au bonheur pour tous?
Après son refus d'association avec Jean-Pierre, Madame Villa a eu une attitude très désagréable. Elle écoutait derrière les portes, elle fouillait dans nos papiers. Oh, c'était ridicule, irrespirable. Alors j'ai posé ma démission pour aller voir ailleurs.
Mais tout bourge était au courant des disputes entre cette gosse et le petit notaire fêtard.
Monsieur le Président, je crois qu'il est préférable et plus sérieux de prendre en considération le diagnostic d'un vétérinaire qui a examiné les vaches quand elles étaient malades, même si ce vétérinaire n'exerce plus, plutôt que le diagnostic d'un vétérinaire qui n'a pas vu les vaches et qui se base sur des suppositions.
En vertu de l'article 373 du Code pénal, vous risquez une peine de 6 mois à 5 ans de prison et une amende de 500 à 20 000 francs, monsieur.
Merci, monsieur le président. Ma plaidoirie sera très brève. L'idée qu'on puisse ne pas secourir une femme ou un homme en danger me fait particulièrement horreur. Depuis le début de cette affaire, j'avais la conviction absolue que mon client était innocent. Nous savons maintenant pourquoi et avec quel héroïsme il a menti pour protéger son frère. Vous ne vous étonnerez donc pas que je vous demande sa relaxe pure et simple.
Cette affaire est doublement grave. Non seulement le prévenu a voulu se faire justice lui-même, mais il l'a fait en portant gravement atteinte au commissaire de police dans l'exercice de ses fonctions. Pour arriver à ses fins, Roland Champana n'a pas hésité à fabriquer une fausse preuve. Il n'a pas hésité à se servir de Gabriel Baudry, à le faire mettre en prison, a entaché gravement sa réputation. Mais il y a pire.
Je reste persuadé que ces deux vaches étaient atteintes de salmonellose et que M. Landier s'en est débarrassé pour ne pas perdre d'argent. M. Pourraz a très vite remarqué que l'une d'elles était anormalement fatiguée et que l'autre avait des problèmes digestifs. La seule erreur que mon client ait commise, c'est de ne pas avoir alerté immédiatement le vétérinaire. Et on peut aussi lui reprocher de s'être trop fié à la réputation de M. Landier. Et puis, il y a le témoignage accablant de M. Gantin. Si M. Landier a été capable de vendre deux vieux canassons, éreintés et malades, en les faisant passer pour de solides chevaux de trait, il n'est pas étonnant qu'il ait cherché à faire la même chose quelques années plus tard, avec deux vaches atteintes de salmonelle.
Monsieur le Président, mon confrère a eu beau jeu de disséquer les éléments du spectacle de M. Zampanelli pour les déclarer un à un comme dénués d'originalité. Ce qu'il ne veut pas voir, c'est que tous ces éléments, mis bout à bout, forment un tout original, parce qu'ils ont été choisis et placés dans un ordre précis.
L'histoire aurait pu s'arrêter là.
Mais on n'arrête pas si facilement des sentiments. C'est un cri du cœur de Yann Duperron que cette lettre qu'il a adressée à la mère de son enfant. À tout moment, si tu en as besoin, je me comporterai comme un père pour Stéphane.
Nous savons déjà que la Défense, avec son talent habituel, nous brossera tout à l'heure un portrait émouvant d'Edith Escoffier, cette femme honorable, cette victime de la fatalité. Mais nous ne devons pas oublier que cette femme honorable a abandonné son premier enfant, que cette femme honorable a perdu son divorce pour inconduite notoire, que cette femme honorable n'a pas reconnu sa fille à sa naissance, que cette femme honorable n'a reconnu sa fille qu'après sa mort. Cette reconnaissance posthume nous prouve, Monsieur le Président, qu'Edith Escoffier est intéressée. Il ne s'agit pour elle que d'hériter de Georges de Marquet.
Il est tout de même étrange que Stéphane Jacquet se découvre le fils de Yann Duperron juste au moment où se profile un héritage. Je n'irai pas jusqu'à l'accuser d'escroquerie. Mais n'aurait-il pas été la victime innocente et consentante d'une mère qui ne m'a pas dit toute la vérité, d'une mère qui a vu, avant sa mort, l'occasion de tirer une revanche de la vie en assurant à son fils un très très intéressant pécule.
Michel Brunel a été grugé. Sa femme, au moment du divorce, lui a laissé croire qu'il aurait la garde de sa fille. Il a été bien naïf d'accepter que cette garde ne lui soit pas confiée officiellement, je vous le conseille. Ces débats ont clairement établi que Corinne Brunel n'a jamais eu la moindre fibre maternelle. Alors pouvez-vous m'expliquer par quel miracle elle se serait soudain métamorphosée en mère attentive et aimante?
En pratiquant illégalement l'exercice de la médecine, Monsieur Mousse s'est rendu coupable d'un délit qui doit être réprimé et servir d'exemple dans sa région.
Je demanderai donc au tribunal de le condamner à une amende de 10 000 francs, mais d'assortir cette condamnation du sursis.
Attendu que le sérieux et l'excellente réputation de l'élevage de M. Landier ne sont pas remis en question. Attendu que M. Pourraz n'a pas alerté un vétérinaire dès l'apparition des premiers symptômes de la maladie. Attendu qu'il n'ait pas prouvé avec certitude que les vaches étaient atteintes de salmonellose au moment de la vente. Attendu que Roland Champagnat s'est rendu spontanément au commissariat pour déclarer avoir vu Gabriel Baudry tirer Sabine Nollet par son écharpe, alors que c'était faux. Attendu que le témoignage du docteur Nicou nous a paru très convaincant. Et attendu qu'il est probable que les bêtes ont été contaminées après leur vente, à cause du manque d'hygiène observé chez M. Pourraz, attendu que M. Champagnat a fabriqué une fausse preuve en plaçant l'écharpe de Sabine Nollet sous le siège avant de la voiture de M. Baudry, attendu qu'au vu des éléments présentés par les parties, il n'apparaît pas clairement que M. Zampanelli soit le seul auteur des numéros qu'il revendique.
Attendu qu'au vu des témoignages, il n'est pas contesté qu'Edith Escoffier soit la mère naturelle de l'enfant Junie de Marquet.
Attendu qu'en prétendant soigner un malade gravement atteint par des méthodes non reconnues par la loi, M. Charles Mousse s'est rendu coupable d'exercice illégal de la médecine. Attendu que le choix du lieu où a été construit le bâtiment contesté semble totalement arbitraire. Il est clair, M. Poitras, en examinant les plans, que vous auriez pu faire bâtir en plusieurs autres endroits.
Attendu qu'il semble qu'Edith Escoffier n'a pas reconnu l'enfant à sa naissance sur la demande du père, Georges de Marquet.
Attendu que l'activité de M. Mousse fait subir un certain préjudice à l'ordre régional des médecins. Attendu que la détention d'une tigresse sans aucune mesure spéciale de sécurité n'est pas acceptable, compte tenu des accidents qui peuvent survenir. Attendu que le bâtiment est de toute évidence une gêne pour le demandeur et qu'il déprécie la valeur de sa propriété.
Attendu qu'elle a effectivement vécu comme une mère avec Junie depuis sa naissance.
Attendu que le décret de 1977 qui prévoit une autorisation pour la détention d'animaux non domestiqués devait être suivi d'un arrêté mentionnant la liste précise de ces animaux. Attendu que Roland Champagnat a agi dans le but de nuire au commissaire Pétrel et à M. Baudry, il y a bien eu dénonciation mensongère avec intention malveillante.
Mademoiselle, en se montrant sévère, le tribunal espère que vous et votre ami comprendrez que cette enceinte ne peut être le théâtre de vos brouilles et de vos réconciliations. D'après ce que j'ai pu voir, vous vous aimez tous les deux. Quand même, il y a d'autres moyens de le montrer.
Messieurs, il est regrettable que dans un village de 400 habitants, vous n'ayez pu trouver un terrain d'entente. C'est le cas de le dire. J'imagine vos tourments. J'espère que tous les trois, vous saurez affronter cette crise. Il est de rares circonstances où le devoir de la justice est de se retirer sur la pointe des pieds.
L'audience est levée.